Bienvenue dans l'émission Amphi 23 depuis le 23 Quai de Conti. Canal Académie, la radio de l'Académie des sciences morales et politiques, s'adresse plus particulièrement au monde enseignant et étudiant et aux futurs bacheliers. Aujourd'hui, pendant 15 minutes, Amphi 23, dans sa série d'émissions Les philosophes et l'Europe, autour de la question centrale « Une Europe politique est-elle possible ?», s'interroge sur la cause de la non-réalisation d'une unité politique. Dans l'émission précédente, nous avons parlé de la question européenne en philosophie au regard de l'histoire. On se situe aujourd'hui dans cette émission, dans le post-kantisme élargi. Aujourd'hui, nous allons voir avec Constance Hubert, journaliste à Canal Académie, et Bernard Bourgeois, notre invité, philosophe, membre de l'Institut, spécialiste de la philosophie allemande, ce qu'il en est au niveau politique. Bernard Bourgeois, bienvenue dans notre émission.
Merci, bonjour.
Bonjour monsieur. Constance, la parole est à vous.
Merci Marianne. Bonjour Bernard Bourgeois.
Bonjour.
Comment justifier la condamnation dans l'idéalisme allemand achevé par Hegel du projet d'une Europe politique ?
Cette condamnation, le mot est peut-être fort, mais enfin, disons ce scepticisme, pour le moins, peut se nourrir de deux ordres de raisons, des raisons qui renvoient à la rationalité et des raisons qui renvoient à la réalité ou à la possibilité réelle de faire se construire un État des États, une Europe fédérale ou une unité politique véritable. Fichte, bien sûr, condamne l'équilibre européen qui est en quelque sorte le moyen ou le paravent ou le détour permettant à chaque État européen de se renforcer dans la paix pour une fois plus fort s'efforcer de l'emporter sur ses rivaux dans le but de réaliser à son profit une monarchie universelle. Fichte dénonce ce projet d'une monarchie universelle et il considère, faisant l'éloge de la nation et non pas du nationalisme que j'évoquais à l'instant, comme agressif. Mais il fait l'éloge de la nation, il fait l'éloge de l'autarcie des nations dans la condamnation qui est la sienne de toute tentative de réunion par la force des nations européennes, les unes par les autres, de même qu'il condamne les entreprises de colonisation. Par conséquent, pour Fichte, la réalité nationale est une réalité indépassable. Il souhaite la paix entre les nations, mais il n'envisage pas la possibilité, l'opportunité d'une Europe fédérale. Pour Hegel, il en va de même, la totalité politique suprême, c'est la totalité nationale. Il n'est pas pensable d'unifier véritablement une communauté au simple niveau des institutions étatiques. On ne doit pas mettre la charrue devant les bœufs. Pas d'unité politique, pas d'unité étatique s'il n'y a pas auparavant une unité nationale, c'est-à-dire la constitution ou l'élaboration, la production d'une communauté de vie, chose extrêmement lente à faire se produire et on peut se demander si effectivement l'histoire a montré la réunion comme réunion durable d'entités qui auraient été d'abord des nations fortement constituées. Pour Hegel, on ne peut pas aller véritablement au-delà de la totalité politique. Le tout des tout ne peut s'actualiser qu'au-delà du politique, à savoir au niveau de la vie artistique, religieuse et philosophique. Il y a un tout possible de la philosophie, il y a une totalisation possible de la vie religieuse, il n'y a pas de totalisation possible de la vie politique.
Et après Hegel, la philosophie européenne a-t-elle maintenu son rejet de l'idée d'une unité politique de l'Europe ?
Écoutez, je crois qu'on peut dire que de grands penseurs ont réaffirmé l'unité culturelle de l'Europe sans pour autant considérer que cette unité politique devait se traduire dans une unité politique. Par exemple, Nietzsche. Nietzsche appelle de ses voeux la réalisation de l'homme européen. Il fait l'éloge de l'entreprise napoléonienne. Mais à ses yeux, cette unité européenne ne peut avoir qu'un sens culturel, elle ne peut pas avoir un sens politique. Lui aussi affirme que l'Europe est la synthèse heureuse du Nord et du Midi. À la différence d'autres penseurs allemands, il pense que c'est le Midi, l'esprit grec, qui peut réaliser cette unité du Nord et du Midi, et non pas l'esprit germain, l'esprit allemand. Camus également, plus tard, évoquera cette heureuse union, cette heureuse réconciliation du Nord et du Midi. L'Europe n'existe que par cette réconciliation du Nord et du Midi qui n'efface pas les différences. Mais là également, l'unité européenne est envisagée essentiellement comme une unité culturelle. Husserl, d'ailleurs, définira l'Europe essentiellement par sa visée culturelle, son projet philosophique, mais ne pensera pas davantage à la possibilité réelle de la constitution d'une Europe une au niveau politique. Par conséquent, je pense que la plupart des grands penseurs auteurs ont été très réservés, pour le moins en ce qui concerne l'idée de la structuration de l'Europe sous la forme d'une unité politique effective.
Mais l'actualité de l'entreprise de construction de l'Europe ne remet-elle pas en cause le verdict de l'impossibilité rationnelle d'une Europe politique ?
Si l'on est attentif aux événements qui se passent actuellement, je crois que ça n'est pas s'avancer trop que de répondre par la négative.
Est-ce qu'on peut pour autant parler d'une citoyenneté européenne ?
D'une citoyenneté européenne, est-ce qu'on peut superposer à des citoyennetés qui sont encore subsistantes ? On parle de leur fragilisation, c'est vrai, mais elles sont encore subsistantes. Les citoyennetés originaires, les citoyennetés nationales, est-ce qu'on peut superposer à une citoyenneté qui réclame un engagement total au niveau de la vie réelle, la vie extérieure, est-ce qu'on peut lui superposer une autre citoyenneté ? Est-ce que l'on peut superposer ainsi des touts ? Est-ce que la citoyenneté peut se diviser ? C'est une question qui mérite réflexion, qui exige interrogation. Un esprit européen, oui. Un esprit européen, oui. Une citoyenneté européenne, c'est quelque chose, si vous voulez, qui peut sembler beaucoup plus problématique. Ça ne signifie pas que la visée des citoyens des États européens, où qu'ils soient, ne doit pas être de tisser entre eux des relations pacifiques, des échanges, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut en tirer la conclusion que le tout sera couronné par l'existence d'une véritable communauté étatiquement constituée que serait un État européen ou une Europe fédérale ? Ça, c'est un tout autre problème.
Mais alors, Bernard Bourgeois, selon vous, à quelles conditions une Europe politique est-elle possible ?
Mais écoutez, je modifierai un petit peu votre question. Au lieu de parler d'Europe politique, parlons d'une unité ou d'une réconciliation européenne qui pourrait, bien sûr, comporter des aspects politiques, des aspects juridiques. Il y a bien un droit international, il y a bien des échanges cosmopolitiques, mais sans que ça signifie qu'il y aurait la possibilité, encore une fois, d'une structuration politique qui soit celle d'une unité forte, d'un État ou d'une fédération. Mais je crois que ce que les penseurs nous avons envisagé, que nous avons rappelé les thèses essentielles trop rapidement, ce qu'ils nous ont appris, je crois que c'est ceci. L'Europe a une vocation privilégiée. Qui la pousse à l'affirmation du cosmopolitisme. Je crois que l'objectif qui est à la mesure et à la hauteur d'un projet de réconciliation européenne, c'est le projet cosmopolitique. Je ne crois pas qu'il y ait un autre projet qui soit à la hauteur de l'esprit européen que celui de faire en sorte pour les États européens d'être des agents privilégiés de la réconciliation du monde avec lui-même. Je veux dire par là que le projet politique des Européens me semble ne pouvoir s'actualiser à l'écart de ce qui motive l'action des Nations Unies. Je ne pense pas qu'une politique européenne puisse être contraire à la politique onusienne. Deuxièmement, la spécificité de l'Europe, les penseurs l'ont fait consister essentiellement dans la pacification ou la réconciliation conformément au droit. Pas la paix, la réconciliation à tout prix, mais seulement dans le cadre du droit. Et je pense qu'une politique européenne, je ne dis pas la politique d'une unité politique européenne, mais la politique européenne, politique dans laquelle se rencontreraient les divers composants de l'Europe, cette politique est une politique qui ne peut pas se définir en dehors du droit. Troisièmement, si la force ne fait pas le droit, la force fait que le droit peut, conformément à sa visée, se réaliser. La force ne fait pas le droit, mais il n'y a pas de droit sans force, et c'est pourquoi je pense que les Européens doivent rejeter tout pacifisme et se doter, même dans le cadre de liens extrêmement lâches, liens confédérales ou liens d'alliance, ils doivent se doter d'une force militaire suffisante, rappelant au reste du monde qu'il n'y a pas de force sans droit, qu'il n'y a pas une identité de la force et du droit, une identité qui pourrait se lire dans les deux sens, mais que la force doit toujours être au service du droit, et un droit qui a nécessairement besoin de la force pour remplir sa destination. Et enfin, quatrièmement, je dirais que, étant donné que les Européens, quels qu'ils soient, ont tissé dans l'histoire des liens avec d'autres continents, les Anglais avec l'Amérique du Nord, les Espagnols avec l'Amérique du Sud, les Français avec l'Afrique, ces solidarités qui se sont tissées par l'histoire font en sorte que l'Europe ne sera véritablement réconciliée avec elle-même qu'autant que les autres parties du monde auxquelles sont liées de façon diverse les composants partisans de l'Europe qu'autant que ces autres parties du monde s'uniront elles-mêmes ou se réconcilieront de plus en plus. De telle sorte que la France doit favoriser, en particulier en aidant au processus d'acculturation, d'éducation dans toutes les parties du monde, les États européens, la France en particulier, doivent faire en sorte que le souci de la réconciliation, le souci de l'universalisation, le souci du droit soit acclimaté d'une façon intense partout dans le monde. En quelque sorte, donc, je crois qu'on peut retirer de ce que nous ont appris les penseurs dont nous avons rappelé les thèses fondamentales, les doctrines fondamentales au sujet de l'Europe. Je pense qu'ils nous ont donné des éléments pour concrétiser, enfin, l'entreprise de la réconciliation, de la pacification intensifiée des peuples européens entre eux, et que ce sont des exigences qui sont valables, quel que soit le sort du projet politique européen, quelle que soit la structure qui soit finalement retenue, que l'histoire permettra de réaliser.
Merci Bernard Bourgeois de nous permettre de penser l'actualité à partir de la philosophie.
Alors, en guise de conclusion sur cette émission où nous avons vu ce que Hegel et Fichte pensaient aussi de l'Europe, rappelons simplement qu'il n'y a pas d'unité politique et éthique possible pour eux, qu'ils n'envisagent pas une Europe fédérale. Pour Nietzsche aussi pense que l'unité de l'Europe ne peut être que culturelle et non politique. Et puis, nous avons aussi abordé la citoyenneté européenne. En comprenant votre échange, on voit que la citoyenneté n'est pas divisable selon vous et qu'on ne peut pas superposer aux citoyennetés nationales une autre citoyenneté plus générale, supplémentaire. Et nous avons également vu que si cette Europe politique n'est pas possible, vous souhaitez plutôt parler, au lieu d'une Europe politique, d'une unité politique, d'une réconciliation politique. Vous croyez au projet cosmopolitique et que les Européens, s'ils ont un projet politique à l'égard du monde, c'est en étant en gros les promoteurs d'une pacification et d'une réconciliation dans le cadre du droit. Vous avez beaucoup insisté sur ce cadre du droit, et y compris en ayant le souci de l'éducation. Nous vous remercions, Bernard Bourgeois, pour cet entretien et pour cette série d'émissions.
Nous vous remercions d'une pacification et d'une réconciliation dans le souci de l'éducation. Nous vous remercions d'une pacification et d'une réconciliation dans le souci de l'éducation. Et pour cette série d'émissions.